Cette semaine, Raphaël Rérol rencontre Françoise Mouly. Ce soir, le dessin regarde sur le monde contemporain.
Bonsoir Françoise Mouly.
Bonsoir Raphaël.
Nous sommes pour la quatrième soirée consécutive chez vous. À Paris, vous êtes de passage puisque vous vivez à New York depuis longtemps. Vous êtes directrice artistique du New Yorker, le célèbre, très prestigieux hebdomadaire américain, fondé en 1925. Et pour commencer, je voudrais vous demander, Françoise Mouly, en fait, en quoi ça consiste être directrice artistique d'un magazine comme le New Yorker qui, je le redis, fait une très grande place au dessin, notamment.
C'est diriger les artistes, les solliciter, les encourager, travailler avec eux, être en dialogue avec les artistes. Alors, pas forcément tous les artistes qui contribuent au magazine, parce qu'il y a aussi maintenant des photos, ce qu'on n'avait pas avant. Il y a aussi des dessins humoristiques, alors ça, on a tout un tas de... J'ai des collègues qui s'occupent de ça. Moi, mon forte, c'est tous les artistes qui sont des contributeurs à part entière, hein. C'est-à-dire soit qui vont faire la couverture, soit qui vont faire des bandes dessinées à l'intérieur, pas ceux qui illustrent le travail des journalistes, mais ceux qui prennent voix pour exprimer leur propre opinion. Et ce qui est très intéressant pour moi, après avoir fait Raw, dont on parlait hier, avoir fait mon propre magazine, c'est l'importance donnée aux contributeurs par le New Yorker. Parce que pour tout vous dire, ayant fait mon propre magazine, le fait que je m'étais donné les moyens de publier moi-même, etc., quand j'ai reçu cette offre de travailler pour quelqu'un et d'être directrice artistique et collègue, ma première réaction, c'était « mais pourquoi est-ce que je voudrais faire ça pour quelqu'un d'autre ?» J'aimais bien mon autonomie, mon indépendance. Le New Yorker, je ne connaissais pas spécialement. Ce n'était pas une publication que je suivais à l'époque. Et maintenant, je me rends compte pourquoi. C'était que ça s'est quand même beaucoup endormi sur ses lauriers pendant les années 70, pendant l'époque des hippies et de la culture alternative. Ça n'a pas publié de Robert Crumb, ça n'a pas publié de tous ces gens qui faisaient des choses intéressantes dans la presse alternative, n'ont pas été incorporés à la fabrique du New Yorker. C'était resté très vieux jeu, ça avait été fondé en 1925, donc ça avait déjà 60-70 ans à l'époque. Ça a été intéressant, finalement, je me suis rendu compte que Tina Brown, qui était la nouvelle directrice du New Yorker, à laquelle on avait donné la mission de revitaliser le magazine, de le remettre un peu à la page, pour pas qu'il s'endorme sur ses lauriers, justement. Si elle me demandait à moi, si elle faisait appel à quelqu'un qui était complètement en dehors de la direction artistique, parce qu'il y avait plein de gens à New York qui se seraient battus pour avoir ce boulot, c'était sans doute parce qu'elle était prête à un vrai renouveau, une nouvelle approche, à quelque chose de différent, et parce qu'elle avait vu Raw, justement, le magazine dont on parlait, qu'elle avait vu la bande dessinée de Art, de Mouse, qui avait été publiée en livre et qui avait reçu le prix Pulitzer, et qu'elle voulait faire rentrer cette nouvelle vague, cette nouvelle génération de dessinateurs au magazine. Donc, j'ai finalement dit oui. Je me suis dit, en fait, c'est pas parce qu'elle va me dire quoi faire, c'est parce qu'elle ne sait pas comment y arriver. Si elle savait exactement quel artiste elle voulait et comment faire participer ces artistes, elle prendrait quelqu'un qui serait plus un secrétaire et qui achèverait sa mission. Puis moi, ce qui m'a surtout accroché au New Yorker, c'était d'aller à la bibliothèque du New Yorker et regarder les vieux numéros. Et les numéros de 1930, ça a commencé en 25, en 25 à 30, c'est très art déco, mais de 30 à 40, 50, c'est là où ça publie des images de Charles Adams, des dessins qui sont drôles, mais surtout qui racontent la vie de l'époque. Alors, le forte du New Yorker, c'est aussi que ces dessins ne sont pas des cover stories, c'est pas pour illustrer les articles qui sont à l'intérieur, ou un sujet, par exemple, s'il y a un journal comme Time ou comme le Nouvel Obs, ils vont choisir une histoire qui sera la Chine maintenant, et ils vont faire un dessin qui va illustrer ce gros titre. Le New Yorker n'a jamais fait ça. Il est né à l'époque des grands magazines, et la contribution qui est en couverture est non seulement un dessin, mais un dessin autonome qui raconte sa propre histoire. Mais il n'y a pas de sujet imposé. Ce n'est pas un magazine. Aux États-Unis, on parle des Special Interest Magazine. Alors, Special Interest, ça peut être la mode, ça peut être la décoration intérieure, ça peut être la pêche, etc. Le New Yorker, c'est un magazine d'intérêt général.
Général, c'est un magazine transversal. Mais quand même, j'observe que certaines couvertures sont complètement déconnectées de toute actualité, en tout cas de toute actualité perceptible par un lecteur français. Parce que je pense qu'il y a peut-être aussi des choses dont on ne se rend pas compte, mais en tout cas, voilà, ça représente une régate, par exemple, à New York. Et puis d'autres sont quand même, et il y en a pas mal, sont connectés, quitte d'ailleurs à faire scandale. Je pense à une couverture, tout le monde doit vous en reparler, Françoise Mouly, mais cette couverture de 2008 qui représente Barack Obama, c'était donc au moment de la campagne de 2008, Barack Obama en Ben Laden, hein, Michelle Obama en Black Panther Total
Angela
Look.
Davis,
Angela Davis, dans le bureau ovale, avec le drapeau américain qui flambe. Mmh. Évidemment, ça avait fait jaser. C'était très lié. Enfin, ça peut être complètement connecté.
Et c'est en partie, justement, parce que toutes ces images apparaissent sans titre.
Il y a
un
titre
à l'intérieur, il n'y a pas de légende, il n'y a pas d'explication écrite. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Et des fois, je dis en blaguant, j'ai vraiment l'impression de publier un magazine sur la couverture de ce magazine, parce que les images se parlent à elles-mêmes, et donc mon boulot consiste...
Entre elles, vous voulez dire ?
Elles se parlent, oui, elles se parlent entre elles et elles se répondent les unes aux autres. De la même façon que moi, en voyant les couvertures des années 30, j'ai trouvé un fil directeur, c'est-à-dire que je voyais que ces images, il pouvait y en avoir une qui se passait au moment de Noël et l'autre qui se passait pour les sports d'hiver, etc. Mais ce qu'elles racontaient, c'était la façon dont les gens vivaient à ce moment-là et quels étaient ce qui les faisait rire, quels étaient leurs préjugés, quelles étaient les mœurs et la façon dont on vit quelque chose émotionnellement. Les rapports de force entre les domestiques, parce qu'il y a beaucoup de couvertures sur les domestiques dans le New Yorker des années 30. La dépression, elle se voit dans quelques couvertures où on voit des gens très bien sapés qui sont en train de sortir du théâtre et qui prennent le métro entourés de gens qui, eux, ont plus l'habitude de prendre le métro. Donc, c'est ces regards que les gens se jettent et des sujets aussi à partager qui ne sont pas forcément des choses politiques, comme un petit chat sur un lit vu à l'intérieur d'un appartement et par la fenêtre, une couverture de Jean-Jacques Sempé d'ailleurs, et par la fenêtre on voit le tissu urbain et tous les immeubles
fébriles,
exactement l'énergie de la ville où chaque immeuble est d'une couleur différente, d'une taille
alors
différente,
alors que le chat lui dort tranquillement.
Et le chat dort au milieu d'un champ blanc qui est le duvet et on sent le confort de l'intérieur par rapport à l'extérieur. Alors ça, c'est des images qui sont universelles parce qu'elles font... On peut les lire le jour où elles sont publiées et 10 ans après, et on ressent ce même plaisir du calme intérieur.
Mais alors concrètement, Françoise Mouly, comment est-ce que vous faites ? Parce que quand même, il en faut... C'est une véritable œuvre à chaque fois et il en faut une par semaine. Comment ça marche ?
Vous décriviez un peu ce que je fais en disant chef d'orchestre. Alors des fois, je dis aussi traffic controller, aiguilleur du ciel. C'est-à-dire que j'ai tout un tas d'avions qui sont déjà lancés et il faut les faire atterrir. Il faut être sûr que chacun arrive à bonne piste et pas tous en même temps. C'est un dialogue. C'est-à-dire que je suis entièrement dépendante des artistes, hein, des dessinateurs. Hein. Il faut que je les encourage. Alors, c'est des relations personnelles, c'est des amitiés, c'est des va-et-vient sur... c'est des mails, des fois, c'est des coups de fil. Je suis à l'écoute de ce qui les intéresse, parce que c'est eux qui vont lancer le sujet. Alors, par exemple... j'ai pas 30 à 50 artistes avec lesquels je suis en contact parce qu'ils dessinent bien et qu'ils ont des idées. Dessiner, c'est le point de départ, mais tous les gens avec lesquels je suis en contact, je sais qu'ils vont pouvoir faire une image magnifique. Mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de trouver quelqu'un qui dessine bien et qui ait des bonnes idées et qui ait des idées concises, qui sache raconter quelque chose qui parle et qui va parler au lecteur. Alors par exemple, j'envoie des calendriers à tous les artistes en leur disant au mois de juillet et août, on va avoir, même si c'est hebdomadaire, on va avoir 7 ou 8 couvertures qui vont raconter l'été. Et l'été, on n'est pas forcément à New York, donc ça peut être une balade dans la forêt ou ça peut être au bord de la mer. Et à l'automne, par exemple, à la fin du mois d'octobre, il va y avoir le 1er novembre, hein, il va y avoir le marathon. Enfin, je donne tous ces sujets. Après, il va y avoir Halloween. Après, il va y avoir Thanksgiving et il va y avoir Noël. C'est un peu le calendrier, je dis, Hallmark pour les États-Unis ou le calendrier des PTT. J'ai certaines dates butoirs. La fête des mères, par exemple, c'est une très bonne date pour montrer. La fête des mères, c'est une date où, par exemple, je la suggère à tous ces artistes. Et Chris Ware, qui est un des grands dessinateurs de nos jours, hein, qui fait une suite de couvertures du New Yorker, qui raconte beaucoup sur la vie que nous partageons, pour la fête des mères, nous fait une image d'une femme qui arrive au square avec son gosse dans la poussette et tous les autres enfants qui sont en train de jouer sont accompagnés par leur père. Et bon, bien sûr, c'est une exagération parce que c'est comme ça que les dessinateurs communiquent leur idée maîtresse en les mettant en exergue.
En forçant le trait.
Exactement, en forçant le trait. Mais ça parle de ce changement qui est en train de s'effectuer, de simplement la mère étant l'unique parent responsable et maintenant les pères s'impliquant dans l'école, amener leurs enfants au square. Donc j'ai ces images-là qui passent à des moments précis, etc. Et je les laisse aussi être détrônées à la dernière minute, ou mises de côté, ou remises à l'année d'après, quand il y a quelque chose qui nous permet de réagir parce qu'il y a un tremblement de terre, parce qu'il y a un événement politique, parce qu'il y a quelque chose. Alors on n'est pas obligé justement de répondre à tous les appels. Parce que
de l'actualité, vous voulez dire ?
De l'actualité, parce qu'il y a quand même une espèce de folie collective où tous les médias, au moins aux États-Unis, et je crois que c'est la même chose en France, suivent les mêmes histoires et il y a des fois où c'est trop, quoi. Parce que ça n'est plus intéressant. Toutes les semaines, on peut prédire pratiquement ce que va faire Time Magazine, ce que vont faire US News and World Report, ou ce que va faire à Paris Match. Enfin, on connaît les histoires qui sont dans le bain. Le New Yorker n'est pas obligé de suivre ça, justement, peut avoir ces échappées poétiques que le dessinateur va nous donner. Et quand il y a une image qui en vaut la peine, on peut interrompre le
calendrier,
et commenter sur cet événement ponctuel.
Vous êtes décalé et en même temps, vous l'avez dit, vous pouvez être lié. Ça n'empêche pas les dessinateurs de prendre un parti, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée dans la première soirée de cette série d'émissions, et de prendre un parti et de prendre un parti politique. Par exemple, les images qui ont montré Donald Trump, celle de ce dessinateur qui contribue beaucoup au New Yorker, qui s'appelle Blit, et qui le montre notamment, qui l'ont montré en reine de beauté, ou alors sur un escalator en train de donner un coup de pied dans le derrière de son gendre et de tirer son fils par l'oreille, ça a été des réponses très immédiates à quelque chose qui était en train de se produire.
Oui, vous parliez tout à l'heure d'une image qui a fait le tour du monde, qui était Obama aussi, en juillet 2008. Alors cette image, par exemple, qui a été décriée parce que c'était sur la couverture du New Yorker, montrait, c'est ça que je cherche, qui montrait les attitudes sous-jacentes. C'est, je pense aux artistes comme des catalystes, c'est-à-dire qu'ils ne créent pas une opinion, mais ils donnent un miroir à l'opinion publique qui peut se voir à travers cette représentation des attitudes, justement. Et cette image d'Obama dessinée en Bin Laden avec sa femme en Angela Davis, ça mettait à la lumière, ça faisait remonter tous ces qu'en dira-t-on, les rumeurs qui étaient pernicieuses parce qu'elles étaient dites sotto voce, il n'y avait pas de... c'était des insinuations. Et ça, c'est très, très difficile à démonter parce que c'était justement aussi à la fois caché. Et tout ce que le dessinateur, c'était aussi Barry Blitt, le même, j'allais dire américain, mais en fait, il est canadien, le même dessinateur, il a un don justement pour trouver une façon de rejouer avec les éléments. Je crois, étant moi-même française, vivant dans les médias aux États-Unis, que c'est très utile d'être un étranger parce qu'on peut voir les choses avec un œil neuf. Lui, par exemple, il écoutait la radio. Alors, toutes les radios extrêmement de droite, parce qu'on pouvait dire beaucoup plus à la radio que ne pouvait dire dans les journaux. Alors, il y avait des insinuations comme quoi Barack Hussein Obama n'était pas né aux États-Unis. D'ailleurs, le Donald Trump dont vous parlez renchérissait là-dessus sur l'idée qu'il n'était pas, il pouvait pas être candidat. Il venait d'être nommé le candidat pour les démocrates, mais il y avait peu de discussions de la part de ceux qui voulaient voter pour lui, des méchancetés, puis des calomnies surtout, de ce que disaient les autres. Et ça, c'était littéralement mettre en vue les calomnies elles-mêmes, c'est-à-dire, voilà ce que disent les gens sur Barack Obama, qu'il brûle le drapeau américain dans la cheminée, qu'il veut être à la Maison-Blanche pour mettre un portrait de Bin Laden sur le mur de la Maison-Blanche, enfin, ça dépassait les bornes, c'était une parodie extrême, mais en fait, c'était du mot à mot avec ce qui était insinué
que lui, il
à
entendait,
la radio.
Oui. Entendait à la
radio. Et la même chose avec Trump. Alors, vous parlez de cette image au moment où il était candidat. Il était très dur, il est toujours d'ailleurs, maintenant qu'il est président, mais il est très dur à dénoncer pour les dessinateurs parce qu'il est une parodie lui-même du nouveau riche ou de quelqu'un qui n'y connaît rien. Il exagère et il a ce désir de faire parler de lui. Donc il a une façon de pousser à l'extrême toutes ses déclarations. Et au moment où il s'est jeté dans le bain politique, bon, ben, on peut montrer sa mèche, on peut faire son physique, mais c'est pas intéressant. Et il y avait eu cette explosion où nous pensions que entre la xénophobie, entre le sexisme, entre toutes les qualités qui le disqualifiaient d'être candidat, enregistrement qu'il avait fait où il disait « Ah oui, j'attrape les femmes
par la chatte. »
Par la chatte, et puis quand on a un certain pouvoir, on peut faire ce qu'on veut, elle vous laisse faire, etc. Ça allait être le truc qui allait tout faire exploser. Et Barry Blitt m'envoie une esquisse de cette image et je la soumets, comme je soumets toutes les images d'ailleurs, à mon service de vérification, à mon service légal, etc. Ils étudient le sketch pour être sûr que tout est bien mis en place. Et mon vérificateur me dit « Ah oui, mais alors là, il la montre avec un maillot, une pièce et une couronne, etc. C'est très vieux jeu, mais
il est montré
savoir...
en reine de beauté, hein,
franchement, il est montré en reine de beauté,
voilà,
oui.
Qui avance comme ça sur une sorte de tapis, de voilà, tapis. Avec une couronne sur la tête.
Et mon vérificateur me dit « Oui, alors c'est vrai que Trump s'est fait connaître et a gagné de l'argent en organisant justement des concours de Miss America, Miss Universe, etc. Mais il a mis les choses à jour et ses mannequins, ou ses, les personnes qui défilent pour lui, ses défilés se font avec des maillots bikini qui montrent beaucoup plus le corps. Et j'ai fait passer ces informations. Donc il faudrait mettre un truc plus à jour, plus Trump. Hein. Et quand j'ai fait passer ça à Barry Blitt, hein, il m'exige, il dit, mais moi je le fais exprès de revenir en arrière et, parce que le slogan de Trump, c'est « Make America Great Again ». Again, c'est-à-dire il faut remettre l'Amérique à sa grandeur du passé. Et remettre, de quoi parle-t-il ? Il parle des années 50, il parle des concours de beauté où on jugeait une femme que pour sa beauté physique et si elle savait faire un petit discours mièvre quand elle accepterait la couronne, mais certainement pas une femme qui ait une profession ou qui ait quoi que ce soit d'autre à proposer que à son tour de poitrine et son tour de taille. Et c'était justement l'image de le représenter, lui, ce candidat, dans la position de la candidate qui a perdu, celle qui pleure et qui nous donne des grosses larmes, cette espèce de cinéma. Et c'est là où je voyais la subtilité du discours de l'artiste, c'est-à-dire qu'il mettait en jeu non seulement le sexisme de Donald Trump, mais même ses idées de retour en arrière à la société
des années 50. Oui, complètement réactionnaire. Mais vous, quand vous voyez Françoise Mouly, cette finesse, etc., j'imagine que peut-être, donc vous ne vous posez pas de questions, mais vous avez prononcé le mot artiste, ce sont des artistes qui contribuent, et vous, vous êtes directrice artistique, et c'est une sorte d'ambiguïté, parce que c'est-à-dire que ce que vous, ces dessins, ça n'est pas une exposition complètement libre de gens qui absolument ce qu'ils veulent sans aucune contrainte, et puis qui ensuite l'exposent dans une galerie. Vous, ça va à la une d'un journal. Est-ce qu'il vous arrive de faire intervenir le mot directrice dans directrice artistique ?
Toujours, ne serait-ce que par qui je choisis, avec qui je choisis d'avoir un dialogue, mais c'est un dialogue, c'est-à-dire que oui, il y a des fois où je remanie l'image et je redessine cette partie-là où je suggère. Hein,
vous faites redessiner
ou vous redessinez vous-même ? Où je redessine moi-même, l'un ou l'autre, oui. Ça dépend des artistes. Il y en a des qui prennent les suggestions mieux que d'autres. Et il y en a où il y a plus besoin de recolorier ou de redessiner.
Et quand vous refusez, est-ce que vous refusez parce que ça ne colle pas, parce que ça n'est pas suffisamment percutant ou parce que c'est pas passable ?
La réponse n'est pas simple, c'est-à-dire que j'essaie de choisir, de faire le choix au niveau de l'esquisse, de façon à minimiser l'investissement de la part de l'artiste, parce que c'est inévitable quand on passe 3-4 jours à faire une image. Puis j'ai épousé un artiste, étant la femme de Art Spiegelman. Le rejet est la partie la plus difficile de mon travail pour tout le monde, pour moi autant que pour les artistes qui sont rejetés. La partie la plus facile, la plus agréable, c'est d'appeler quelqu'un et dire « ça y est, c'est merveilleux, ça passe, ça va être publié dans quelques jours ». Ça, c'est facile. Mais pour chaque image qui passe, il y en a souvent une dizaine, des fois une trentaine, qui ne passent pas. Et là, il faut que j'amoindrisse le choc pour tout le monde et que je les encourage à continuer à me soumettre d'autres idées pour la prochaine fois. Parce que si leur enthousiasme s'épuise, moi j'ai plus de sources à brasser pour proposer tout un tas d'options différentes à mon patron, David Amnick, qui est l'éditeur du New Yorker.
Et qui dit oui ou non.
Alors lui, il ne me dit pas un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus vert, un peu plus rouge, etc. Donc il ne prend pas de décision là-dessus. Et il ne revient pas facilement en arrière. Hein. J'ai beau lui dire, bah, ce n'est qu'une esquisse, s'il y a quoi que ce soit qui cloche, ça pourrait être retravaillé. C'est des décisions très viscérales, très immédiates.
Hein. Et par exemple, vous parliez d'Art Spiegelman tout à l'heure, qui collaborait avec le New Yorker, qui faisait des couvertures et qui a décidé de ne plus en faire parce que justement, il était en désaccord, si j'ai bien compris, avec le côté trop nuancé de certaines décisions, trop timoré,
oui,
voilà, pour dire les choses.
C'est-à-dire, Art a démarré le... Même ce que je fais, c'est en partie parce qu'il avait fait des couvertures pour Tina Brown et qu'elle avait adoré. Il a fait des couvertures qui ont permis au New Yorker de changer de cap, hein, des images engagées. et qui ont soulevé tout un tas de protestations. À l'époque, on parle de 1992-93, d'un journal endormi hebdomadaire qui s'asseyait sur ses lecteurs, ont permis de revitaliser. C'est exactement la chose à faire pour Tina Brand qui l'avait sollicité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle m'a demandé, comme elle a vu que j'avais fait Raw, de continuer sur cette lancée.
Mais lui, Art Spiegelman...
Il a fait ça pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, je crois que pour lui, il voulait passer à autre chose. Et puis, il y avait aussi, après le 11 septembre... Il y a eu des années qui ont été très dures parce qu'on a eu l'élection comme George Bush était président, il y a eu la décision de Bush d'envahir l'Irak. Et ça, c'était difficile pour Art parce qu'il était, il avait des images très fortes qu'il voulait faire là-dessus. Et ça, elles sont passées, ces images fortes, mais pas par lui et un peu plus tard. Il y a eu un.
Et Françoise Mouly, pour finir, puisqu'il nous reste très peu de temps, mais justement, vous parliez du 11 septembre, vous avez fait très peu de couverture, mais celle du 11 septembre, elle est de vous, celle qui a suivi
le
11 septembre.
Oui, et c'était une couverture charnière, dans le sens, c'était un moment où j'ai abandonné tout espoir de trouver une image qui puisse correspondre à ce coup de tonnerre, ce changement catastrophique, cette réalité qui avait disparu. Et en en parlant avec Art, je lui ai dit que j'allais faire une couverture noire. Il m'a suggéré de dessiner les tours noires sur fond noir. Il m'a dit, si tu vas faire du noir, ne fais pas que du noir, fais du noir sur noir. Ce que j'ai dessiné, j'ai réalisé tout de suite qu'en fait, cette anti-couverture était la solution. C'était pas une image, mais c'était aussi une image. Et ça évoquait cette ombre et ces fantômes d'un changement massif qui s'était fait.
Et c'est une couverture historique qui a répondu à une date, à un événement extrêmement historique. Merci beaucoup Françoise Mouly. Bonne fin de soirée et à demain soir.
Merci Raphaël.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Rérol avec Françoise Mouly. À voix nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Yann Fressy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.